Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes toujours dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 11 de Saint Jean, verset 33. Nous allons commencer les versets 33 à 40 du chapitre 11 de Saint Jean sur le polycopier, qui contient les commentaires des pères de l'Église pour les chapitres 11 à 15, de Saint Jean. Nous en sommes à la page 5, en bas de la page. Voilà le texte. Nous sommes en train d'expliquer, en suivant Saint Jean, le magnifique miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, un de ses plus grands miracles, la résurrection de Lazare, de Saint Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Marthe. Jésus, lorsqu'il la vit pleurer et qu'il vit les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer aussi, frémissant son esprit se troubla lui-même. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et lui dire, Seigneur, venez et voyez. Et Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle-né, ne pouvait-il pas faire que celui-ci ne mourût point? Jésus, frémissant donc de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée par-dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? S'il est une chose que manifeste ce passage au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment son humanité. Là, on voit vraiment, on voit par les termes même utilisés par l'évangéliste, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui pleure. Notre Seigneur Jésus-Christ qui frémit en lui-même. On verra un peu les mêmes choses, par exemple, au début de la Passion, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ devient triste à en mourir, tombe en désolation. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas pleurer, ne peut pas frémir et tomber en désolation comme Dieu. Il frémit, il pleure, il tombe en désolation comme homme. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a une double nature, nature humaine et nature divine. Il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et la vertu divine, la nature divine plus exactement, ne détruit pas la nature humaine. Encore une fois, j'ai souvent expliqué ça, mais il faut que les gens comprennent bien, la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un mélange d'humanité et de divinité. Il y a deux natures parfaitement séparées et parfaitement distinctes dans la même personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et on voit que notre Seigneur Jésus-Christ est pleinement homme. Donc comme il est pleinement homme, eh bien il a les sentiments des hommes. Il est homme en tout, sauf, bien sûr, le péché. Donc, voyez un petit peu ce que disent les pères à ce sujet. Nous en sommes à la page 6, en haut de la page 6. Saint Augustin se pose la question, qui pourrait troubler notre Seigneur, si ce n'est lui-même? Jésus-Christ a été troublé parce qu'il l'a voulu. Il a eu faim parce qu'il l'a voulu. Il était en son plein pouvoir de se prêter ou de se soustraire à ses impressions. Car le Verbe a pris une âme et un corps et s'est uni la nature humaine tout entière en unité de personne. Or là où se trouve une puissance souveraine, la faiblesse humaine ne peut être troublée qu'autant que cette puissance souveraine y consent. C'est-à-dire, on voit bien entre Seigneur Jésus-Christ non seulement une double nature, mais également une double intelligence et une double volonté. Une nature, une intelligence divine, une intelligence humaine, une volonté divine, une volonté humaine. Mais attention bien que les deux natures soient parfaitement séparées. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans la même personne qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, est à la fois homme et à la fois Dieu. Donc une nature humaine parfaite, une nature divine parfaite. Cependant, la nature humaine est parfaitement soumise à la nature divine. Donc l'intelligence humaine de notre Seigneur Jésus-Christ sera totalement, complètement soumise à l'intelligence divine. La volonté humaine de notre Seigneur Jésus-Christ sera totalement et complètement soumise à la volonté divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, notre Seigneur ne peut, dans son humanité, être troublé ou pleurer que dans la mesure où la puissance souveraine, et qu'on sent la puissance souveraine, c'est, quelle est cette puissance souveraine dont parle cet Augustin? Eh bien, cette puissance souveraine, c'est la puissance divine. Oui. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, et si vous voulez, respecte sa nature humaine. Il pourrait très bien, on voit très bien pendant la Passion, il pourrait parfaitement, à cause de la soumission de sa nature humaine à la nature divine, donner un ordre pour que les souffrances physiques qu'il allait devoir subir pendant la Passion ne le touchent pas. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a voulu souffrir parce qu'il a voulu être parfaitement homme. On touche là certainement un des plus grands mystères de la foi catholique. C'est le mystère qu'on appelle, c'est un nom, qu'on appelle le mystère de l'union hypostatique. L'union hypostatique, hypostase en grec, c'est la personne. Donc l'union hypostatique, ça représente l'union des deux natures humaines dans la même personne. Donc ça veut dire aussi l'union des deux intelligences dans la même personne, l'union des deux volontés dans la même personne. Alors attention au terme qu'on utilise. Quand je parle d'union des deux personnes, l'union des deux volontés, l'union des deux intelligences dans la même personne de notre Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que la volonté humaine, l'intelligence humaine, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ sont tellement englobées et incorporées dans la nature humaine, divine qu'elles disparaissent, pas du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment homme, donc il a une véritable intelligence, une véritable volonté humaine, une nature humaine totale. Il est identique à nous en tout, sauf, bien sûr, le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas pécher, parce qu'évidemment, il n'avait pas le péché originel. N'oubliez pas qu'il n'y a que deux personnes qui n'ont pas le péché originel, notre Seigneur Jésus-Christ et dans son humanité, et la très Sainte Vierge Marie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a voulu justement avoir ces sentiments intimes manifestés extérieurement pour montrer justement aux Juifs qui assistaient à la scène, il y avait beaucoup de monde, toute une foule qui était devant la tombe de Lazare, eh bien il a voulu montrer qu'il était parfaitement homme, pas simplement Dieu. Ça, je vous l'ai souvent expliqué, et c'est sans doute une tentation aussi pour nous d'oublier cette différence de nature et de se dire que, bien, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, donc il n'a pas pu vraiment souffrir. Mais notre Seigneur a voulu souffrir. Comment était-il possible pour notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir une nature humaine souffrante en même temps que d'avoir cette nature humaine souffrante parfaitement unie à la divinité? Le meilleur mystère de l'union hypostatique reste un mystère. Il est vraiment Dieu, vraiment homme. Comment les deux choses sont-elles possibles? Et encore une fois, c'est quelque chose d'incompréhensible pour notre petite intelligence grosse comme un quart de bois chiche. Continuons avec un texte de Théophylacte. C'est afin de prouver la vérité de sa nature humaine qu'il lui commande de manifester les sentiments qui lui sont propres. Et c'est par la vertu de l'Esprit Saint qu'il lui donne cet ordre qui réprime ses trop vives émotions. Donc pour montrer justement que notre Seigneur est parfaitement homme, il laisse sa nature humaine se montrer. La nature humaine en tant que telle, en tant que nature humaine, est limitée. La nature divine, en tant que telle, est illimitée. La nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que telle, est finie. La nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que telle, est illimitée et infinie. Vous voyez ? Donc, notre Seigneur veut montrer qu'il soumet parfaitement sa volonté humaine à sa volonté divine. On le voit dans d'autres circonstances, on le verra un peu plus tard dans la Passion, entre autres, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit du haut de la croix, « mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Eh bien, c'est sûr que certaines personnes, à partir de cette parole, ont dit « mais ce n'est pas possible que cette personne qui souffre sur la croix soit Dieu, puisqu'il parle ainsi. » Il parle ainsi dans son humanité, pas dans sa divinité. Encore une fois, attention, même pour nous catholiques, de faire attention, de ne pas oublier la double nature entre Seigneur Jésus-Christ. Il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est encore une fois un très grand mystère. Donc il y a toutes ces hérésies qui ont fleuri au cours de l'histoire de l'Église, de gens qui niaient ou l'humanité ou la divinité, ou qui diminuaient la divinité ou qui diminuaient l'humanité, notre Seigneur. Le Seigneur veut que la nature humaine subisse ces épreuves pour nous prouver qu'il était homme en réalité et non seulement en apparence. Et aussi pour nous enseigner à mettre des bornes à la tristesse comme à la joie. Car n'être accessible à aucun sentiment de compassion ou de tristesse, c'est l'insensibilité de la brute, de l'animal. Comme aussi, il n'appartient qu'au caractère efféminé de se livrer sans mesure à ses affections. Donc si vous voulez, notre Seigneur a une nature humaine, a une nature divine, il a les dieux, les deux. Il manifeste par justement cette souffrance extérieure la vérité de sa nature humaine, mais en même temps, il ne veut pas que les souffrances de la nature humaine soient sans mortification. Il va mortifier sa souffrance humaine pour justement bien montrer que les hommes doivent constamment mortifier leur caractère, leur sens, leurs passions, qui doivent être contrôlées par les puissances supérieures. Tout à fait en bas, vous avez les passions. Au-dessus des passions, vous avez la volonté. Au-dessus des volontés, vous avez l'intelligence. Et au-dessus de l'intelligence, vous avez la lumière de la foi. Et donc Dieu, par la lumière de la foi, par l'espérance, par la charité, va nous apprendre à contrôler l'usage de notre intelligence, de notre volonté, de nos passions. C'est intéressant de voir ce texte qui dit que il n'appartient qu'au caractère efféminé de se livrer sans mesure à ses affections. On voit très bien dans le monde moderne, les gens sont incapables de cacher ce qu'ils pensent. Au moins en Europe. Des choses qui m'avaient frappé dans d'autres pays. Dans d'autres pays, notamment en Extrême-Orient, dans l'éducation, par exemple au Japon, dans l'éducation qui est donnée aux enfants, les Japonais apprennent à leurs enfants à ne pas manifester ce qu'ils pensent. Et c'est très curieux, on a beaucoup de mal à comprendre ça en tant que Français. Les Japonais, par exemple, sont entraînés en famille à ne pas manifester leurs émotions. Et on me disait qu'au Japon, par exemple, je ne suis jamais allé au Japon, mais j'ai pas mal missionné dans les pays d'Asie du Sud-Est, notamment en Océanie, en Nouvelle-Zélande, en Fidji, en Australie. Je connais aussi un peu le Népal et la Thaïlande. Eh bien, on voit très bien que on me disait que, par exemple, quand un Japonais fronce les sourcils, il est en fait noir de colère. Mais il a appris à la maison à ne pas manifester sa colère. Et je pense que c'est une bonne leçon pour nous. Je ne dis pas qu'il faut forcément faire la même chose, mais il importe d'apprendre à nos enfants à mortifier leur sens, à mortifier l'expression de leurs sentiments. Et ne pas montrer à tout le monde ce qu'il pense. Quand quelqu'un est incapable de cacher ses sentiments, eh bien, il va souffrir beaucoup plus. Et il importe d'être maître de ses sentiments. Et j'aime bien cette formule qui dit que, donc Théophylacte, qui dit que quand je ne suis pas capable de cacher mes affections, mes sentiments, eh bien, j'ai un caractère efféminé. Pourquoi ? Pourquoi efféminé ? Parce que la femme, par nature, réagit d'abord avec son cœur. Donc il est normal qu'une femme soit plus sensible dans l'expression de ses sentiments qu'un homme. Donc un homme, comme il est en principe quelqu'un qui doit utiliser son cerveau avant d'utiliser son cœur, est quelqu'un qui, par la raison, devrait apprendre et savoir contrôler les manifestations de ses passions sensibles de son cœur. La femme, au contraire, qui utilise d'abord le cœur puis la cervelle, devrait a le droit, donc à cause de sa nature féminine, elle a le droit de manifester plus sensiblement, plus extérieurement, ce qu'elle pense au fond d'elle-même. C'est très important dans un ménage. Parce que l'homme va avoir plus de facilité, psychologiquement parlant, à cacher ses émotions que l'épouse. Et il n'est pas bon qu'une épouse cache complètement ses émotions à son mari. Qu'elle apprenne à dominer ses émotions, c'est une chose, mais elle ne doit pas les cacher complètement parce qu'elle reste femme. Et que justement à cause de sa féminité, eh bien, elle a le droit de manifester ses émotions. Au contraire, l'homme, de par sa nature masculine, va devoir apprendre à masquer ou à dominer davantage ses sentiments. Vous voyez ? Et je crois que c'est très important, justement, ça donne une complémentarité entre les deux époux, entre le père de famille et la mère de famille, il y a une complémentarité très importante qui s'établit là, où justement, la femme va apporter quelque chose que l'homme est incapable d'apporter. De la même façon, l'homme va apporter quelque chose que la femme n'est pas supposée devoir apporter. Et c'est les difficultés dans les ménages, ou malheureusement, dans les familles dans lesquelles malheureusement une des deux autorités parentales a disparu, soit par la mort, un veuf par exemple, ou une veuve, soit parce que malheureusement, une de ces deux autorités parentales a quitté le foyer. Bon, lorsqu'une maman se retrouve sans époux, parce que l'époux est mort par exemple, ou l'époux hélas est parti avec une autre, ça arrive et hélas bien trop souvent, eh bien l'épouse va devoir, dans l'éducation qu'elle va donner aux enfants qui restent à la maison, qu'elle a la charge, elle va devoir non seulement ouvrir son cœur, mais aussi agir avec la force d'un homme, ce qui va contre sa nature. De même, le mari, l'époux, le père de famille qui resterait seul chez lui à s'occuper des enfants parce que son épouse est morte ou est partie, eh bien, il va devoir non seulement exercer son autorité masculine, ce qui n'est pas difficile pour lui parce qu'il est homme, mais en même temps manifester également son autorité, une certaine forme d'autorité féminine. Et donc, ne pas oublier que bien qu'il soit homme, il va falloir qu'il présente une fibre maternelle que son épouse ne peut plus apporter puisqu'elle n'est plus là. Or, les enfants ont besoin des deux choses. Malheur aux enfants qui ne sont éduqués qu'avec une fibre maternelle, sans fibre paternelle, et malheur aux enfants qui ne sont éduqués qu'avec une fibre paternelle, sans fibre maternelle. Il faut les deux choses. Il faut le cœur et il faut le cerveau. C'est aussi très important dans les différences d'éducation qu'on doit exercer à l'égard des garçons et des filles. On n'éduque pas de la même façon un garçon et une fille dans une famille catholique. Attention, c'est très important. J'ai entendu des parents dire parfois des bêtises énormes sur le sujet. Ah, moi, j'ai 5 enfants, j'ai 6 enfants, j'éduque tous de la même façon, de la même manière, aucune différence entre mes 6 enfants. Attention, on n'éduque pas de la même façon un garçon qui est un petit colérique et un garçon qui est un petit phlegmatique ou un sanguin ou un mélancolique. Ou un colérique, il y a 4 grands tempéraments, colérique, sanguin, mélancolique, phlegmatique, et en fonction de ces tempéraments, l'autorité au-dessus de ce tempérament, et l'autorité des parents, doit s'exercer de façon un petit peu différente. C'est pour ça qu'il y a, dans certains cas, une jeune fille qui commence à avoir certaines difficultés psychologiques ou certaines difficultés à cause de sa nature féminine, va devoir parler normalement plus facilement avec sa mère. Ça m'est arrivé au confessionnal de dire à une jeune fille, écoutez, vous devriez parler de ces difficultés dont vous parlez ici au confessionnal, parlez-en à votre maman, parce qu'elle est femme, elle est mère, elle a les grâces d'État en tant que votre maman pour vous aider à vaincre cette difficulté que vous avez. Et au contraire, il m'est arrivé bien sûr, bien souvent, avec des jeunes garçons, des garçons en pleine adolescence, il faut que vous parliez avec votre papa. Parce que le papa a autorité et a grâce d'État en tant que père de famille pour aider ses garçons, alors qu'il n'aura pas forcément les mêmes grâces pour aider les filles de la maison. Oui. Donc attention, s'il est une catastrophe dans les familles, c'est l'efféminisation des hommes, le manque de virilité des hommes. Éduquons nos garçons pour qu'ils soient hommes, et éduquons nos jeunes filles pour qu'elles soient femmes. Une femme, par nature, utilise d'abord son cœur. Un homme, par nature, malheur à lui s'il veut d'abord utiliser son cœur. Et les abominations, les théories du genre en prétendant qu'un jeune enfant va choisir par lui-même s'il veut devenir un homme ou une femme, alors que l'évidence montre que c'est pas lui qui choisit ces choses-là. Eh bien, les enfants vont être extrêmement troublés, justement, si on ne leur donne pas une éducation qui va correspondre à leur nature. Donc, on éduque un garçon avec une virilité qui est naturelle pour le garçon. Et on doit éduquer une jeune fille avec en donnant, si vous voulez, une sentimentalité, une féminité à la jeune fille. Alors attention, quand je parle de féminité, le mot féminin est quelque chose de magnifique. Une jeune fille doit être féminine, un jeune homme doit être viril. Féminité ne veut. C'est un mot qui est complètement détruit pour le monde moderne. Parce que beaucoup de gens disent féminine, une jeune fille féminine, ça veut dire qu'une jeune fille doit être, je m'excuse du terme que je déteste, mais j'en vois pas beaucoup d'autres pour expliquer la même chose. Une jeune fille doit être féminine, ça ne veut pas dire qu'elle doit être sexy. Une jeune fille féminine remplit son devoir d'État. Une jeune fille sexy ne remplit pas son devoir d'État, parce que ce n'est pas son rôle. Sauf à l'égard de son époux, une fois qu'elle est mariée, dans le cadre de l'intimité conjugale. Vous voyez, ce sont des choses très importantes. Je répète cette phrase. Il n'appartient qu'au caractère efféminé de se livrer sans mesure à ses affections. Oui, donc, au verset 34, il est dit, où l'avez-vous mis? Il lui dit, Seigneur, venez et voyez. Cette question du Sauveur est comme le symbole de notre vocation qui se passe dans le secret. Car la prédestination de notre vocation est une chose cachée. Et la marque, elle est secrète. C'est la question que fait le Seigneur sur ce sujet, comme s'il l'ignorait, alors que c'est nous-mêmes qui l'ignorons. Venez et voyez, donc verset 34. Où l'avez-vous mis? Et dire, Seigneur, venez et voyez. Vous voyez, si certains pères pensent que c'est un peu le symbole aussi de la vocation. Bon. Notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans une âme par les moyens qu'il a décidés. C'est une grosse, grosse difficulté aujourd'hui d'arriver à préserver, justement pour les âmes de nos enfants, l'entrée du bon Dieu dans ces âmes. Le bon Dieu ne rentre pas dans toutes les âmes de la même façon. Dans certaines âmes, il va rentrer d'un seul coup, avec une certaine presque violence. C'est le cas, par exemple, de l'entrée de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'âme de Saint Matthieu ou de Saint Paul. Mais dans d'autres cas, notre Seigneur Jésus-Christ va rentrer, au contraire, avec beaucoup, beaucoup beaucoup de différence. Vous voyez? On a certaines explications sur ce sujet dans les exercices de Saint Ignace. Voyez, par exemple, dans les règles de discernement des esprits pour la deuxième partie de la retraite, pour la deuxième semaine, la septième règle, voilà ce que dit Saint Ignace. Le bon ange a coutume de toucher doucement, légèrement, suavement l'âme de ceux qui font chaque jour des progrès dans la vertu. C'est pour ainsi dire une goutte d'eau qui pénètre une éponge. Le mauvais ange, au contraire, la touche durement, avec bruit et agitation, comme l'eau qui tombe sur la pierre. Quant à ceux qui vont de mal en pis, les mêmes esprits agissent sur eux d'une manière tout opposée. La cause de cette diversité dans la disposition même de l'âme, qui est contraire ou semblable à la leur. Si elle est contraire, ils entrent avec bruit, commotion, on sent facilement leur présence. Si elle est semblable, ils entrent paisiblement et en silence, comme dans une maison qui leur appartient, et dont la porte leur est toute ouverte. Et donc il faut faire attention à ces choses-là et s'arranger pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment rentrer dans une âme. Le bon Dieu ne traite pas toutes les âmes de la même façon parce qu'il n'y a aucune égalité devant Dieu. Chaque âme est différente. On le voit très bien ici, les pères font allusion à la vocation. On le voit très bien au niveau des vocations religieuses, comment certainement les vocations se manifestent de façon parfaitement claire. Et au contraire, dans d'autres cas, ce n'est pas clair du tout. C'est une des grandes difficultés qu'un prêtre peut avoir justement dans la vie apostolique, d'arriver à déterminer les vocations. Est-ce qu'il y a une véritable vocation dans ce cas-là, ou est-ce qu'au contraire, ce n'est qu'un simple désir naturel? Bon, le problème, un deuxième problème qui se rajoute au premier, c'est que ce n'est pas simplement suffisant de déterminer s'il y a une véritable vocation religieuse ou sacerdotale dans telle ou telle âme. Il faut après savoir comment, dans la pratique, cette personne, cette âme, va pouvoir réaliser cet appel de Dieu, où l'envoyer. Alors ça, c'est un problème énorme, énorme. Je remercie un petit peu le bon Dieu d'un certain côté de ne pas avoir directement à m'occuper d'âmes qui pensent avoir la vocation religieuse, parce que je ne sais pas du tout où je pourrais les envoyer. En conscience, je ne peux pas envoyer un jeune homme qui penserait à la vie sacerdotale au séminaire de Monseigneur Lefebvre, au séminaire de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pélissey-Écône. C'est plus possible, je ne pourrais pas, ce serait une trahison. Mais d'un autre côté, je serais aussi embêté d'envoyer ces âmes dans d'autres séminaires, comme par exemple le séminaire de Monseigneur Sanborn aux États-Unis, bien qu'il soit très bon sur bien des rapports, parce que justement, ils ont un esprit complètement schismatique par rapport à l'autorité du pape Pie XII, par exemple, en prétendant reconnaître le pape Pie XII, et puis dans la pratique, en agissant comme s'il n'existait pas, qu'il n'avait aucune influence sur l'Église. L'évangéliste, disent les pères, prend soin de répéter que Jésus pleura et frémit en lui, on voit plusieurs reprises. Il frémit en lui-même pour vous convaincre qu'il a pris véritablement notre nature. Donc il est véritablement homme. L'évangéliste Saint Jean nous a décrit les grandeurs du Verbe incarné bien plus magnifiquement que n'ont fait les autres évangélistes. Et par une même raison, il s'appesantit davantage sur ses humiliations. Vous voyez? C'est ça qu'on dit que le symbole de l'évangéliste Saint Jean, c'est l'aigle. Parce que l'aigle vole beaucoup plus haut que les autres oiseaux. Et donc, Saint Jean va beaucoup plus insister sur la divinité cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, autre explication des pères sur la phrase ôter la pierre. Donc, on est au verset 40. Jésus dit au verset 39, ôtez la pierre. Et les gens qui sont là s'étonnent, mais Seigneur, il sent déjà mauvais, car Lazare est depuis 4 jours dans le tombeau. Ils enlevèrent donc la pierre au verset 41. Qu'est-ce que veut dire cette parole, ôtez la pierre? Ben, ôtez la pierre, les pères de l'Église expliquent, il y a un sens allégorique derrière. C'est-à-dire enlever le poids de la loi et annoncer la grâce de la loi nouvelle. Ôter la pierre, c'est-à-dire la pierre ferme le tombeau. Le tombeau représente la mort spirituelle, la mort du péché. Ôter la pierre, c'est-à-dire libérer l'âme qui était prisonnière dans le tombeau, qui va pouvoir sortir et manifester pleinement son amour pour son rédempteur et son créateur. Donc ôter la pierre, c'est aussi le symbole, si vous voulez, enlever le poids qui m'empêche de trouver la véritable liberté, le péché. Et par la libération du péché, la résurrection de Lazare symbolise aussi, bien sûr, la libération du péché, la mort de Lazare. La mort a toujours été un symbole de la mort. Un symbole, la mort physique a toujours été un symbole de la mort spirituelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la mort physique est toujours le symbole de la perte de la grâce sanctifiante. On le voit très bien dans les différentes morts auxquelles notre Seigneur Jésus-Christ va avoir affaire, que ce soit la fille du chef de la synagogue, que ce soit le fils de la veuve de Naïm, que ce soit le frère de Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare. Eh bien, cette mort représente la perte de Dieu. Non pas que Saint Lazare ait été dans le péché, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est un symbole, il y a un sens allégorique derrière, sens mystique. Donc, enlever le poids de la loi et annoncer la grâce de la loi nouvelle. Donc, la résurrection symbolise une autre vie qui commence à arriver. Une autre vie qui commence à arriver, c'est le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle. De le passage de la vie dans le péché à la vie en état de grâce. Et c'est le symbole, c'est ce qui est expliqué par la phrase ôter la pierre. Ceux à qui le Seigneur donne cet ordre me paraissent figurer les Juifs qui voulaient imposer le fardeau de la circoncision aux gentils qui entraient dans l'Église, ou bien les chrétiens qui, au sein de l'Église même, mènent une vie corrompue et sont un scandale pour ceux qui veulent embrasser la foi. Donc, le fait d'ôter la pierre donne une véritable libération à l'âme. voyez, on a, c'est quelque chose que les jeunes ont mal, faut comprendre, dans le monde moderne, c'est qu'ils ont l'impression, poussés par le démon, que de vivre dans le péché va leur donner la liberté. Et en fait, vivre dans le péché entraîne l'esclavage. On devient esclave de celui qu'on sert. Donc celui qui vit dans l'état de grâce devient esclave de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la véritable liberté. Liberté qui n'est pas le droit de faire ce que je veux, mais le pouvoir de me mouvoir dans le bien. Au contraire, si je vis dans le péché mortel, je deviens esclave de celui que je vais servir. Celui qui vit dans le péché mortel, il sert le démon. Et donc, eh ben, il va devenir esclave de celui qui va servir, et donc va perdre toute forme de liberté. Donc, il faut faire attention à ça, ne pas oublier que, contrairement à ce qu'on pense, le péché nous donne une fausse idée de la liberté. Constamment, on entend ça dans le monde moderne, c'est terrible. Je suis libre, je suis libre. Oh bah, maman, j'enregistre cette conférence le 6 juillet 2022. On parle beaucoup actuellement que l'avortement, l'infanticide, donc, soit reconnu comme constitutionnel en France. Oui, on en arrive quand on perd le bon Dieu. Le droit, la liberté de tuer son propre bébé. C'est vraiment le monde à l'envers. On voit toutes ces pancartes dans les manifestations pro-avortement. Mon corps, touchez pas, touche pas mon corps. Mon corps est ma propriété. Il faut expliquer aux gens que votre corps n'est pas votre propriété. Son corps n'est pas sa propriété. Votre corps n'est pas votre propriété parce que c'est bon Dieu le patron. Le droit de faire ce que je veux de mon corps. On arrive même à des gens qui finissent par penser que tant que l'enfant est dans le sein maternel, mais il n'est pas vraiment un enfant, et qui va prendre d'un seul coup, miraculeusement, une nature humaine au moment où il va pointer son nez en dehors du sein maternel. Bon, on va revenir avec cette histoire d'infanticide, on va revenir aux siècles les plus barbares, début, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a frappé dans les pays qui étaient avant des pays complètement barbares, soumis à toutes sortes de démons de l'enfer. Je pense par exemple à Papouasie en Nouvelle-Guinée, lorsque les premiers missionnaires sont arrivés là, dans des conditions abracadabrantes, pardon, eh bien, les coutumes, c'était épouvantable. Lorsqu'un enfant naissait dans un village papou, eh bien, il était présenté au chef de village qui allait examiner l'enfant sous toutes les coutures, et puis il allait accepter ou refuser l'enfant dans la communauté. S'il acceptait l'enfant dans la communauté du village, eh bien, l'enfant était immédiatement considéré comme sacré dans le village. Si au contraire il refusait l'enfant parce qu'il avait un nez déformé ou une jambe déformée ou je ne sais trop quoi, eh bien, il baissait son pouce. L'enfant, le bébé, était jeté tout vivant en pâture au porc. Au cochon. Mais c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde moderne. On est retombé, en France au moins, on est en train de retomber au siècle de barbarie les plus totales, la plus totale. On est en train de retomber dans les siècles où on donnait les enfants tout vivants manger au cochon, pour être mangés au cochon, par les cochons. Et là, il faut absolument que réexpliquer constamment que la liberté n'est pas le droit de faire ce que je veux. La liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. C'est le pouvoir de choisir un moyen parmi d'autres, parmi différents moyens pour atteindre une fin qui m'est imposée et sur laquelle je n'ai pas de contrôle. Vous n'êtes pas libre de vivre ou de mourir. Vous n'êtes pas libre d'être jugé par Dieu le jour de votre mort. Vous n'êtes pas libre, si vous mourrez un tas de péchés mortels, de tomber en enfer ou d'aller au ciel. Vous n'êtes pas libre, si vous mourrez un tas de grâces, d'aller en enfer ou au ciel. Non, les chemins vont être indiqués de façon très claire. Autre symbole, Saint Grégoire le Grand, cette fois-ci, au milieu de la page 6. Le Christ rappelle aux femmes le péché d'Ève. J'ai placé l'homme dans le paradis, mais vous, vous l'avez placé dans un tombeau. Donc, encore une fois, on voit le même symbole, le tombeau dans lequel est placé le Saint Lazare, et le symbole de l'âme dans les ténèbres. Ténèbres de quoi? Ténèbres morales, ténèbres du péché. Le Christ devint toute chose pour tous les hommes, pauvre pour les pauvres, riche pour les riches, pleurant avec ceux qui pleurent, jeûnant avec les affamés, assoiffé avec ceux qui n'avaient rien à boire, rempli de biens pour ceux qui vivent dans l'abondance. Il est en prison avec le misérable, il pleure avec Marie, mange avec les apôtres, boit avec la Samaritaine. Ceci, c'est pour expliquer le fait que notre Seigneur Jésus-Christ va pleurer, va frémir. Verset 38, Jésus frémissant de nouveau vint au sépulcre. Verset 35, Jésus pleura. Et on voit l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement est parfaitement homme, mais comme il a une nature humaine beaucoup plus sensible encore que la nôtre, parce qu'elle n'est pas corrompue par le péché, il devait, si vous voulez, réagir encore plus fortement que nous aux émotions extérieures. Et bien, même dans ce cas-là, on voit très bien que notre Seigneur apprend à dominer. Notre Seigneur domine parfaitement ses passions, tout en les manifestant, parce qu'il est homme. Et qu'ils ne veulent pas qu'on puisse dire, mais il n'est pas vraiment homme, il est Dieu, il n'est pas vraiment homme. La preuve, c'est qu'il n'a aucune émotion. Non, notre Seigneur Jésus-Christ a des émotions. Quand il frémit, quand il pleure, quand il tombe en agonie, ce sont des émotions qu'il manifeste. Autre point, le Christ a pleuré trois fois. En tout cas, il y a trois allusions aux pleurs de notre Seigneur. À la mort de Lazare, à la croix, et à la vue de Jérusalem et sa ruine à venir. Il nous a ainsi enseigné à pleurer nos offenses. Il frémit, se trouble, pour que l'homme frémisse à l'accusation de ses méfaits, afin que l'habitude de péché laisse la place à la violence du repentir. Si j'ai utilisé ma volonté pour offenser Dieu, il faut maintenant que j'utilise ma volonté pour marquer mon repentir. D'où l'importance de ce don des pleurs. Il faut demander au bon Dieu le don des pleurs. Pas forcément par des marques physiques, mais le don des pleurs, le don intérieur des pleurs. Avoir une véritable contrition de ses péchés. C'est très beau quand on prêche les exercices Saint-Ignace à la fin de la préparation, des deux jours et demi de préparation pour la confession générale. Surtout chez les hommes, on voit parfois des hommes qui ont cette contrition qui peut se traduire sensiblement dans leur comportement extérieur. Et donc il faut ne pas avoir peur de manifester ces pleurs spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ a pleuré parce qu'il est vraiment homme. Malheur à nous si nous ne sommes pas capables de pleurer. Malheur aux hommes modernes qui sont incapables de pleurer leurs péchés. S'il est fait allusion aux pleurs de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, vous savez, je l'ai déjà dit sans doute que Sainte Marie-Madeleine avait reçu un privilège extraordinaire à la croix, elle était au pied de la croix avec la Sainte Vierge et les Saintes Femmes, au Vendredi Saint, au Golgotha, et notre Seigneur a pleuré sur la croix. Eh bien, elle a reçu les larmes de notre Seigneur Jésus-Christ qui coulaient sur elle, de même qu'elle a reçu le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui coulait des blessures sur la croix, sur sa propre tête, sa chevelure. Elle a pu, nous dit la tradition, recueillir dans un petit vase de cristal, elle a reçu et recueilli les larmes qui coulaient des yeux de notre Seigneur Jésus-Christ alors qu'il était élevé de la croix. Et elle a gardé ce petit vase qui contenait les larmes de son Sauveur sur elle pendant toute sa vie. Et lorsque, des siècles plus tard, on a retrouvé le tombeau de Sainte Marie-Madeleine qui avait été caché et perdu pendant longtemps, eh bien on a retrouvé dans le cercueil qui contenait les restes de Sainte Marie-Madeleine, on a retrouvé une petite fiole de verre, de cristal, qui contenait justement les larmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore des choses qui malheureusement, hélas, ont été saccagées, détruites par les protestants, par les modernistes de l'époque. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a pleuré trois fois. Posons-nous la question, est-ce que je pleure mes péchés ? Il y a parfois des gens qui n'arrivent pas à pleurer leurs péchés. Il faut demander cette grâce, la grâce de savoir pleurer nos péchés. C'est d'ailleurs ce que, pour ceux qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, ils connaissent bien ces choses-là. Les grâces qu'on demande dans la première partie de la retraite, c'est justement la grâce d'avoir la honte, la confusion, des pleurs pour nos péchés. Voilà les grâces. Le texte de Saint-Ignace au début, après le premier. Premier exercice, deuxième exercice, troisième exercice. Qu'est-ce qu'on demande ? Je dois demander la honte et la confusion de moi-même. En considérant combien est grand le nombre de ceux qui sont en enfer pour un seul péché mortel et combien de fois j'ai mérité d'être damné éternellement pour mes péchés sans nombre. Il faut penser à demander ces choses-là. Je demanderai comment, étant le créateur de toutes choses, il en est venu jusqu'à se faire homme pour moi. Comment, possédant la vie éternelle, il a daigné accepter une mort temporelle et l'a subi réellement pour mes péchés. Puis, me considérant moi-même, je me demanderai ce que j'ai fait pour Jésus-Christ, ce que je dois faire pour Jésus-Christ. Au deuxième exercice, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que Saint Ignace nous demande? Il dit, je demanderai une douleur intense et profonde et des larmes pour pleurer mes péchés. Sentir au fond de moi-même le désordre de mes péchés pour obtenir la grâce de connaître d'une connaissance intime mes péchés pour en concevoir de l'horreur. Pour sentir le désordre de mes actions, dit Saint Ignace, afin que le détestant, je me corrige et je règle ma conduite. Enfin, pour connaître le monde, afin que l'ayant en horreur, je m'éloigne de tout ce qui est vain et périssable. Il faut demander cette douleur. Et au cinquième exercice, donc l'exercice sur l'enfer, on demande même, on va même plus loin que ça. Saint Ignace se fait demander le sentiment intérieur des peines que souffrent les damnés, afin que, si mes fautes me faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, du moins la crainte des peines m'aida à ne point tomber dans le péché. Donc il faut demander toutes ces grâces. Et toutes les méditations de première partie des exercices ont pour but de nous faire obtenir justement cette grâce du don des pleurs, du don des larmes. Le monde moderne, au contraire, ne veut plus de larmes. Jamais souffrir, jamais mourir. On s'amuse toute la journée. On est là pour s'amuser. On est là pour rigoler, comme ils disent. Vous voyez, et j'en comprenne plus, ne comprennent plus la gravité du péché. J'en ai eu une preuve encore il y a quelques jours, là. Il y a pas très loin de l'endroit où j'habite, à Padiès. Il y a un petit ville qui s'appelle Requista. Requista, il y a un magasin, une espèce de magasin où il y a de tout pour la décoration de la maison. J'y allais souvent et puis je n'avais pas vu dans ce magasin. Je me suis aperçu, la dernière fois, j'ai cherché quelque chose. J'ai cherché des bougies à l'anniversaire pour l'anniversaire de ma vieille maman qui fêtait ses 92 ans. Et puis j'ai demandé à une des dames qui travaillait dans le magasin, mais où est-ce que je peux trouver des bougies d'anniversaire? Elle m'a dit, allez au rayon anniversaire. Et donc elle m'a montré où c'était, j'y suis allé, et à ce moment j'ai découvert avec stupéfaction qu'en fait dans ce rayon, il y avait tout un rayon où il y avait ils vendaient des baudruches complètement pornographiques, il n'y a pas d'autre mot, et j'ai quand même pris mes bougies d'anniversaire, et j'ai dit à la dame, dites donc c'est quoi ce rayon-là, vous l'avez vaguement caché par des espèces de rideaux à moitié transparents, mais tout le monde peut voir ce qu'il y a derrière, c'est un véritable scandale. Ah lui, c'est pas grave, c'est simplement pour rigoler. J'essaie de lui faire comprendre que moi, ça ne me faisait pas du tout rigoler. On rigole pas, d'offenser le bon Dieu. Et je lui dis, madame, je ne mettrai plus les pieds dans votre magasin. Et j'ai tenu parole, je ne suis plus jamais retourné dans ce magasin. Parce que justement, on ne se moque pas de Dieu. De Dieu, on ne se moque pas. Donc il faut pleurer nos péchés qui ont offensé un Dieu infiniment bon. Il faut promettre au cœur de Jésus de ne plus pécher avec sa grâce, de prendre à l'avenir les moyens de fuir les occasions dangereuses, de prier, de recevoir souvent les sacrements. Pourquoi? Parce que nos pleurs répondent à l'amour miséricordieux infini du bon Dieu pour chacun d'entre nous. Donc reprenons un petit peu ce que je disais. Donc il faut méditer un peu sur ces larmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il pleure véritablement. Hein. Jésus pleura, verset 35. Le Fils de Dieu qui pleure parce qu'il est homme et qu'il avait une amitié toute belle, toute pure, pour pas seulement pour Saint-Lazare, mais pour toute la famille de Lazare. La famille de Lazare, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint-Lazare, étaient des amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, comme homme, va souffrir de la mort de Lazare. Et puis, évidemment, comme il est Dieu, il va utiliser sa divinité pour faire ce grand miracle qui est ressuscité d'entre les morts Lazare. Donc, rappelez-nous, notre Seigneur a pleuré trois fois à la mort de Lazare, à la croix et à la vue de Jérusalem. Hein, Jérusalem, Jérusalem. Et notre Seigneur explique, j'ai voulu réunir tous mes enfants comme la poule réunit ses poussins sous son aile dans le danger, et puis tu n'as pas voulu. Hein? On retrouve cette tristesse de notre Seigneur Jésus-Christ, ces larmes de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout dans les magnifiques prières du Vendredi Saint, les impropères. Donc il faut méditer sur ces pleurs de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ pleure parce qu'on ne veut pas pleurer. Notre Seigneur Jésus-Christ se fait pénitent parce qu'on ne veut pas faire pénitence. Notre Seigneur Jésus-Christ va avoir le cœur broyé par les péchés des hommes parce que nous ne voulons pas avoir notre propre cœur broyé par nos propres péchés. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas de péché, mais qui prend sur lui nos péchés, va avoir le cœur broyé par les péchés des autres. Il n'est pas coupable, il va porter le poids de la culpabilité des hommes. Nous voyons ici le Christ, disent les pères, profondément troublé quand il vit Marie et les Juifs qui pleuraient. Donc au verset 33, Jésus, lorsqu'il la vit, pleurait, s'il parle de Sainte Marie-Madeleine. Lorsqu'il vit Marie-Madeleine pleurer, qu'il vit les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer aussi, frémit en son esprit, se troubla lui-même. Donc notre Seigneur est troublé aussi quand il vit le sépulcre de Lazare. C'est le verset 35. Jésus pleura. Et enfin, quand il fut devant le tombeau pour montrer la misère de Lazare mort et surtout celle des pécheurs morts spirituellement par leurs péchés et mourant perpétuellement dans les tourments de l'enfer, cela provoqua ses larmes de sang pendant sa passion. Vous voyez donc, il y a deux sortes de larmes, les larmes physiques, les larmes liquides, d'eau salée, si vous voulez, qui sortent des yeux, ce sont les larmes de souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa passion. Mais derrière ces larmes de sérum, si vous voyez, il y a des larmes de sang. Et notre Seigneur Jésus-Christ va verser des larmes de sang, on le voit très bien pendant l'agonie au Jardin des Oliviers, pendant l'hématodrosie, cette sueur de sang, c'est littéralement des larmes de sang qui vont exuder de son corps, une espèce de mélange de sang et de sueur qui venait des glandes de la sueur. Et ces larmes montrent l'horreur du péché. Donc il faut méditer, demander au bon Dieu le don des larmes, au moins des larmes physique, si on ne peut pas obtenir des larmes de sang. Après certains gros péchés, il faudrait vraiment verser des larmes de sang pour réparer certains péchés. On le voit aujourd'hui dans le monde moderne où le péché est partout maintenant, malheureusement partout. Surtout les péchés qui font... Il y a deux sortes de péchés qui doivent faire vraiment pleurer le plus notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, les péchés de ses prêtres. Et puis aussi, les péchés contre nature. C'est pour ça qu'on les appelle péchés contre nature. Quand on voit ces pauvres gamins de 10-12 ans qui ne savent même plus s'ils sont garçons ou filles et qui prétendent qu'ils vont pouvoir choisir par eux-mêmes, on leur fait croire, on leur met dans la cervelle qu'ils ont la liberté de choisir d'être un homme ou une femme. Et ces pauvres gamins qui vont à travers des chirurgies lourdes, irréversibles, et qui, lorsqu'ils s'aperçoivent à 18-20 ans qu'ils ont fait une énorme bêtise et qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière, évidemment, plus qu'une seule chose pour eux, c'est tout ce qu'ils n'ont en général pas la foi du tout, ben, ça va se terminer par un suicide, évidemment. Le nombre de gens comme ça. On ne parle pas assez de ces choses-là. J'avais lu une fois un article très intéressant sur les soi-disant, entre guillemets, mariages des contre-nature, les mariages des invertis, les mariages des homosexuels. Ils prétendent pouvoir s'unir devant la République laïque, anticatholique, et dans cette espèce de parodie de mariage entre deux hommes ou deux femmes. Seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est ce que l'article de façon très intéressante expliquait bien, c'est que dans les mois qui suivaient, en général, ils étaient divorcés. Dans les années qui suivaient, bien souvent dans les mois qui suivaient, ils étaient divorcés, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de vrai mariage, donc il n'y a pas de vrai divorce. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Les péchés contre nature sont des péchés qui doivent faire couler des larmes de sang du visage sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment que les parents supplient de bon Dieu de ne jamais avoir de problèmes comme ça dans leur famille. Oh là là, comme je plains les pauvres parents qui se retrouvent avec des enfants qui ont des difficultés comme ça, qui prétendent vouloir changer de genre à cause de l'influence des mauvais camarades à l'école, des mauvais conseils qu'ils ont reçus à l'école, etc. Ou de pauvres jeunes de 14-15 ans qui prétendent avoir des attirances contre nature. Et il faut savoir répondre à ces questions. Souvent, c'est arrivé que les gens me posent la question, même sur l'abbé, mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez père de famille et que vous avez un de vos enfants qui vous annonce qu'il est un homosexuel? Qu'est-ce que vous feriez? Et je réponds toujours la même chose. Je dirais à mon fils exactement ce que je dirais à mon fils s'il venait m'annoncer, voilà papa, j'ai décidé de devenir un poivreau, de devenir un alcoolique. Et depuis, je voulais simplement te dire que maintenant, je bois 3 bouteilles de whisky tous les soirs. Et je te demande de respecter ça parce que je suis libre, c'est ma liberté qui s'exerce là. J'ai décidé de devenir un poivreau. Est-ce qu'il est toujours mon fils? Oui, il sera toujours mon fils. Est-ce que je vais accepter le fait qu'il boive 3 bouteilles de whisky tous les soirs sans essayer de le sortir de sa folie? Mais bien sûr que je vais essayer de le sortir de sa folie par tous les moyens possibles et imaginables. Je vais prier, je vais faire pénitence, je vais parler avec lui pour essayer de le faire sortir de cette boue puante dans laquelle il s'est placé. Parce que je sais que s'il boit 3 bouteilles de whisky tous les soirs, il va mourir dans cet état d'ébriété terrible. Il va se retrouver avec des comas éthyliques et des horreurs. Eh bien, c'est la même chose pour un enfant qui dirait à son père, ben voilà, papa, je ne suis pas attiré par un garçon qui dirait, je ne suis pas attiré par les femmes, je suis attiré par les hommes. Donc il faut que toi, parent, vous, mon papa, vous respectiez ma volonté. Est-ce que le papa doit respecter cette volonté? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut être violent avec l'enfant? Pas forcément, c'est pas du tout en général ce qu'il faut faire. Le père doit tout faire à ce moment-là pour ouvrir les yeux de son enfant. Peut-être, il peut y avoir des cas, c'est vrai, de gens qui. Moi, j'ai connu des gens comme ça qui venaient me voir, parfois des gens qui venaient dans nos chapelles, qui venaient me voir en me disant, voilà, monsieur l'abbé, je voulais vous dire, voilà, j'ai 18 ans, j'ai une grosse croix, une croix énorme. Voilà, je suis un homme, j'ai 18 ans et je ne suis pas du tout attiré par les femmes, je suis attiré que par les hommes. Je sens que j'ai en moi ces désirs contre nature, qu'est-ce que je dois faire? Et je dis toujours la même chose, ne vous découragez pas. Si le bon Dieu a permis que vous ayez ces désirs contre nature, il est obligé de vous donner les grâces dont vous avez besoin pour lutter contre ces désirs contre nature. Et vous allez vous battre. Et vous allez vous confesser extrêmement souvent. Hein. Vous allez être extrêmement prudent pour ne pas vous exposer à des tentations contre nature, en évitant comme la peste les gens qui ont les mêmes tentations que vous. Ils se repèrent entre eux. Donc ne mettez jamais les pieds dans des maisons dans lesquelles il y a les mêmes tendances. Ne mettez jamais les pieds dans des cafés ou des bars dans lesquels il y a ce genre de tendances qui se retrouvent. Confessez-vous souvent. Faites pénitence. Utilisez le sacrement de la Sainte Eucharistie aussi très souvent. Et j'ai connu, heureusement, des gens qui avaient ces mauvaises tendances et qui se sont battus et qui ont vécu comme des saints. Avec des croix terribles. C'est des croix terribles pour un homme de 18 ans, un jeune homme de 18-20 ans qui se rend compte qu'il a une nature homosexuelle et qui peut pas se marier. Parce qu'évidemment, aucune femme ne voudra épouser un homme avec des tentations contre nature de ce genre. Il ne peut pas se marier. Et il ne peut pas entrer en vie religieuse parce que c'est un obstacle, évidemment, à toute forme de vie religieuse. C'est des tentations contre nature qui sont un obstacle, un empêchement à la vie religieuse. Et donc, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas suivre la vie religieuse. Ils sont vraiment entre deux chaises, les pauvres. Et j'ai connu des jeunes qui ont accepté leur croix. Et qui se sont battus, qui ont vécu comme des saints. Il y en a un en mémoire, entre autres, qui s'est converti justement à la suite de ça, parce qu'il s'est retrouvé avec le sida à 35 ans, et il s'est retrouvé avec le sida à cause de ses péchés contre nature, dans lesquels il tombait, et puis qui a utilisé les 5 dernières années de sa vie pour rattraper ses bêtises passées, et qui est mort comme un saint. Vous voyez? Il ne faut pas oublier que ces péchés contre nature. Crie vengeance contre le ciel. Les péchés qui crient vengeance contre le ciel, c'est la catégorie dans laquelle il faut les placer. Donc il faut méditer ces pleurs de notre Seigneur à la mort de Lazare, à la vue de Jérusalem et à sa ruine et à la croix. Donc il faut méditer, donc montrer la misère de Lazare mort et surtout celle des pécheurs morts spirituellement pour le péché en mourant perpétuellement. Dans les tourments de l'enfer, cela provoqua ses larmes de sang pendant sa passion. Donc, méditons les larmes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui montrent justement cette misère du péché. Selon saint Augustin, la pierre représente la loi mosaïque qui était écrite sur des tables de pierre. Que la pierre soit enlevée, mais que la pénitence demeure pour ne plus alourdir le fardeau de l'esprit, mais le renforçant et le vivifiant pour le rendre fort. Que notre nourriture soit de faire la volonté du Seigneur. Donc s'il y a parmi mes auditeurs sur Internet des jeunes qui ont hélas ce genre de tendance, qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils savent que le bon Dieu les aime. Le bon Dieu aime le péché, mais n'aime pas le péché. Est-ce que c'est un péché d'avoir des tentations contre nature? Une tentation n'est pas un péché. Notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté lui-même 3 fois. Donc, si notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté lui-même, ça veut dire que tout le monde peut être tenté d'avoir des tentations. C'est pas un péché d'avoir des tentations contre nature. C'est pas un péché. Le péché, c'est quoi? C'est d'accepter la tentation. C'est-à-dire, parce que j'ai des tentations contre nature, je vais me laisser aller à ces tentations. C'est là où le péché intervient. Et quelqu'un qui a des tentations contre nature, qui lutte pendant toute sa vie contre ces tentations contre nature, qui reste en état de grâce, qui se confesse extrêmement souvent, et qui communie très souvent, qui prie, fait pénitence, eh bien, je peux vous assurer que le jour où il va mourir, vraisemblablement, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que vraisemblablement, on peut dire, cette personne, s'il a lutté toute sa vie contre ces tentations très fortes contre nature, et qu'il, avec la grâce du bon Dieu, il n'est jamais tombé, eh bien, il évitera pratiquement toutes les peines du purgatoire, parce qu'il pourra vraiment considérer que toutes ses souffrances ont été son purgatoire ici-bas sur la terre. Et j'ai vraiment connu des jeunes qui avaient ce genre de tentations, qui ont considéré ces tentations comme une façon de faire leur purgatoire sur la terre. Donc que notre nourriture soit de faire la volonté du Seigneur. Autre symbole, en bas de la page 6, finir ce paragraphe. Marthe, concernant la résurrection de Lazare, alternait des élans de grâce et de nature, de foi et de manque de confiance, d'espoir et de désespoir. Il y a une virgule qui manque pour que la phrase soit lisible en français. Marc, virgule, concernant la résurrection de Lazare, virgule, alternait des élans de grâce et de nature. Je vais corriger ça dans le polycopier. Alterner des élans de grâce et de nature, de foi, de manque, de confiance, d'espoir et de désespoir. Nous faisons nous-mêmes. Nous aussi, on va passer par des moments de consolation, des moments de désolation, des moments où tout va mal, des moments où, au contraire, les choses vont bien. Quand nous regardons vers Dieu, nous espérons vaincre tous les obstacles, même les plus difficiles. Mais quand nous abaissons les yeux sur notre infirmité, quand nous rencontrons quelques difficultés, nous hésitons, nous tremblons. Et nous ne croyons pas que nous puissions accomplir l'œuvre demandée. Ainsi, les soldats avant la bataille montrent une grande confiance, mais dès que le combat commence, encore une fois, décidément, il y a beaucoup de fautes sur cette page, je m'excuse pour ces fautes, dès que le combat commence, à la première attaque de l'ennemi, ils ont peur et ils s'enfuient. Et donc, ne nous décourageons pas. Et cette mort de Lazare qui suit la résurrection montre que quel que soit la lourdeur, la pesanteur des péchés dans lesquels je suis tombé, si je sais me mettre à genoux devant mon Créateur et Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ va pouvoir donner le même ordre qu'il va donner, on verra ça la prochaine fois, verset 43, « Lazare, venez dehors !» Donc il donne deux ordres. Premier ordre, enlevez la pierre. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Deuxième ordre, verset 43, Lazare, sortez dehors. Eh bien, ces deux ordres ont un sens mystique extraordinaire. Même si je suis dans le péché jusqu'au cou, j'ai offensé gravement notre Seigneur Jésus-Christ par des millions de péchés mortels peut-être, si je sais avec humilité me jeter aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ et demander pardon pour mes péchés avec sa grâce actuelle, le bon Dieu va prononcer ces deux paroles. Ôtez la pierre, libérez cette âme. Il donne l'ordre aux démons de s'enfuir. Ôtez la pierre et, deuxième ordre, Lazare, venez dehors. Aussitôt le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linceul, d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Vous voyez ? Alors, ne nous décourageons jamais, bien sûr. Je pense que c'est la conclusion de ce magnifique passage de Saint Jean, chapitre 11. Donc, demandons vraiment à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir ces grâces de lumière, ces dons de force dont nous avons tous tellement besoin pour arriver à vaincre les tentations. Donc ne nous décourageons jamais. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.